Georges Anglade, nous sommes de retour sur Magic 9 pour la discussion autour de votre 35e hebdo publié dans le Nouvelliste de ce mardi 11 mars. On était tout à l'heure, avant la pause, en train de discuter des routes, de discuter des finalités et des perspectives, des réflexions qu'on devrait faire pour savoir si on va encore investir des millions dans l'asphalte ou bien dans le béton. Mais on peut continuer toujours dans le secteur des infrastructures. Nous avons eu les tap-tap depuis une cinquantaine d'années, mais le réseau de transport public n'a pas suivi.
Non, le réseau de transport public n'a pas suivi. Les tap-tap ont eu leur heure de gloire quand, dans les années 70 d'ailleurs, quand cette modalité de transport était très adaptée à une conjoncture. Et je me rappelle dans l'espace haïtien, de 1974 donc, et il y a près de 40 ans, et c'est ça, oui, c'était 34 ans. Et il y avait une espèce d'adéquation entre ce système des années 70. Mais le système a dépéri, le système s'est effondré, il n'a pas été remplacé par quoi que ce soit. Et dans nos transports publics, nous sommes en face d'un problème nouveau de transport public dont il va falloir réfléchir et penser à la structuration. Parce que, encore une fois, nous n'avons que 2,5 millions d'habitants dans Port-au-Prince, et nous nous orientons allègrement vers 5 millions, pardon, en dedans de 10 ans. Ce qui veut dire que les trottoirs vont servir à plus de marchandes et plus de marchés, à plus de marcheurs, ce qui veut dire qu'il va y avoir une pression beaucoup plus grande, nourrir 5 millions de personnes dans cette capitale, comment va-t-on le faire, à partir de quoi, etc. Si l'agriculture haïtienne telle qu'elle est actuellement, bon, autant l'oublier, elle ne pourra rien faire du tout. Comment vont donc devoir se nourrir cette totalité d'individus ? Nous avons un tas de problèmes qui, gouverner, c'est prévoir, et nous devons prévoir ceci, puisque nous savons que nous allons être à 5 millions et que ça va doubler. Donc autant commencer à le prévoir. On ne peut plus avancer de manière empirique. C'est-à-dire la somme des problèmes qui se posent actuellement à l'espace, nouvel espace haïtien, à la réalité nationale, à la gérance de notre pays de 15 millions de personnes, 10 millions à l'intérieur, 5 millions à l'extérieur, n'est plus possible simplement en allant sur l'air du temps comme autrefois. C'est-à-dire, c'est la situation il y a 10 ans, ce n'est pas la continuité de la situation actuellement. Il y a rupture. Et cette rupture oblige à une pensée nouvelle, comme nous venons de voir, par exemple, sur les infrastructures. Et je doute fort qu'il y a eu une grosse réflexion sur les infrastructures, l'aurais-je vu. Et pourtant, il y a toute une démarche qui est en train de se faire. Or, ce nouveau sectoriel, qu'on aille lire cet hebdo, il est là à porter. Ce nouveau sectoriel qui va regrouper tout ce qui a rapport à l'État bâtisseur, et commande justement qu'on sorte les issues dont on parlait, c'est-à-dire qu'on aille chercher qu'est-ce qu'il y a d'essentiel au niveau du bien-être, au niveau de l'infrastructure, au niveau de l'éducation, comment s'articulent ces trois points, c'est-à-dire pour répondre à la justice sociale et à l'investissement humain. Et on se rend compte que, bon, comme je l'ai dit, l'éducation, premier cycle et université avec propédeutique, petite fille à l'entrée, université et propédeutique comme intérêt, infrastructure, tiens, réseau de communication et autres, etc., qui nous permettent de gérer cette économie, de la faire progresser, puisque c'est la croissance qu'il nous faut libérer. Il faut augmenter la grosseur du gâteau pour qu'il n'y ait plus de parts. Donc, il nous faut faire croître l'économie de ce pays. Il faut que la richesse collective augmente sérieusement pour qu'il puisse se répartir en un plus grand nombre. Et puis ensuite, le bien-être, l'état guérisseur, il faut être en santé. Mais en santé, quels sont les objectifs, quels sont les objets ? C'est bien moins priorité sur les petites filles, mais c'est surtout immédiatement le recours à la pharmacopée locale, à la médecine locale, à toute cette capacité de guérir, de former. Par exemple, il y a le SOE qui fait des travaux absolument remarquables là-dessus. Il y a toute une médecine pour 10 millions d'individus quand on n'a pas une industrie pharmaceutique, quand on n'a rien, etc. Et pourtant, à 90%, nous avons sur place un savoir-faire, des connaissances, une capacité nationale d'élargissement de cette connaissance pour que la santé soit prise en charge par un peuple entier, toujours en termes de prévention. C'est-à-dire que toutes les solutions sont là. Mais il faut maintenant un niveau, je dirais, de saisie de la complexité pour permettre de gérer ce pays qui devient maintenant excessivement complexe. Parce qu'une fois sorti de tes 27 000 km² de ton enclos national et que tu rentres dans le grand monde, et que tu rentres dans le grand monde où New York est dedans, où Miami est dedans, où Paris est dedans, où Caracas est dedans, tu ne peux plus gérer l'enclos. Comme s'il s'agissait de quelque chose, tu mets quelques vaches dedans et tu fermes. Non, là maintenant, il faut rentrer dans des problématiques énormes. Ton million à New York te crée un certain nombre de problèmes. Enfin, il faut que tu vois les revues, comment ça se présente, etc. Ton groupe à Miami, c'est la même chose. Ton carnaval à Port-au-Prince t'interpelle différemment. Et puis chacune de tes sections rurales te met un ensemble. On ne peut pas gérer simplement la complexité. On ne peut pas gérer la complexité non plus dans le silence. On ne peut pas gérer en invoquant les saints, les dieux et les lois. Il faut maintenant faire face à la musique de la complexité.
Voilà. Vous parlez de l'éducation et vous mettez comme piste pour nous sortir, pour créer un moteur d'augmenter l'offre à l'université, de créer ce propédeutique dont vous parlez tant. Mais l'université, vous restez attaché à l'université d'État, à votre alma mater, pendant ces 20 dernières années, il s'est passé beaucoup de choses en ce qui concerne l'université. Le secteur privé, les universités privées, enfin bonnes ou mauvaises, ou bien bonnes ou moins bonnes, ont pris beaucoup de place. Qu'est-ce qu'on en fait ?
Oui, tout ce que vous avez dit, il y a une articulation à faire, mais c'est une mission de l'État que cette formation universitaire. C'est une responsabilité d'État que l'uniformisation de la formation de tous ceux qui sont sortis de l'école secondaire avec un diplôme d'État, c'est-à-dire les 100 000 individus qui sont actuellement dans la rue et qui ont des formations qui vont de A à Z. Donc il faut uniformiser tout ça, c'est ce qui est une propédeutique. Oui, je reviens à l'université d'État, c'est pas parce que... J'aurais presque envie de dire que c'est la seule forme que je connaisse. C'est-à-dire, c'est pas vrai, mais c'est l'université d'État. En ce sens qu'il faut une offre d'université dont l'État est responsable de la gestion à l'ensemble des individus. Déjà, on a perdu la bataille du secondaire qui est devenu un marché public. C'est un véritable marché, le secondaire, où ma capacité même de gérance de l'État est extrêmement faible. Et où l'État est absent, puisque l'État est faible. Il faudrait qu'à l'université, on le voit. Or, on croule sur une cinquantaine d'universités. Il y a autant d'universités que de radio ou d'histoire de ce genre. Enfin, bon, à chaque coin de rue, il y a le mot université qui est plaqué n'importe où. Très bien. Bon, alors maintenant, on va voir qu'est-ce qui va être pris là-dedans. Mais je dis, cette priorité est au niveau de la formation et puis qu'il y a un réseau. Il faut penser cette université d'État, il faut réfléchir là-dessus et son articulation aux autres. Je n'ai pas d'a priori sur ce qui va devenir de telle université ou de telle autre qui serait du secteur privé et autres, mais il ne faut pas qu'il y ait, si vous voulez, un démembrement, une vente de feu de l'université d'État. On ne va pas privatiser.
Oui, mais en même temps, ce qu'on a vécu depuis la constitution de 1987 qui a proclamé l'autonomie de l'université, c'est que l'État ne peut plus y jouer aucun rôle. Enfin, l'État donne l'allocation budgétaire et puis c'est tout. L'État n'attend rien de l'université, si on a bien compris, et l'État ne demande rien à l'université non plus. Et l'État donne très peu à l'université. Enfin,
rien. Donne presque rien. Et l'université, en retour également, ne donne rien à l'État. Mais mais cette situation malencontreuse qui a donné lieu à des raidissements dans les 10 dernières années, qui n'étaient pas tous injustifiés. Mais il est temps que ceci se repose en des termes différents. Et je ne crois pas qu'il faille, parce que je connais les deux pages de la Constitution qui s'appliquent à l'université, je ne sais pas s'il faut que ça se retrouve à l'intérieur de la Constitution, ce rapport à un appareil d'État. Mais ceci avait été mis pour empêcher, c'était toujours une constitution de barrage. Mais enfin, en d'autres termes, il faut que les quatre groupes qui constituent cette université, l'université d'État, s'y retrouvent. Il faut que les professeurs soient des professeurs à temps plein, avec des exigences de publication, mais le salaire qui va avec, qui puisse publier, qui puisse entrer dans une dynamique internationale et se frotter. Ceci, on en est excessivement loin. Il faut que les jeunes puissent trouver capacité de produire et il faut que ce pays arrive à produire l'urgence dont nous avons besoin, 500 ingénieurs par année ou 600 ingénieurs par année. Il faut une polytechnique qui arrive à me les sortir. Bon, c'est aussi ça, cette préoccupation. Il faut également les étudiants, le corps professoral, l'administration ne se prennent pas pour autre chose qu'elle est, c'est-à-dire être au service des étudiants et du corps professoral à l'intérieur de la machine de l'université, et puis l'ensemble des facultés, leur articulation. Donc tout ce qui forme cette notion d'université, ce vécu d'université, ces réseaux d'université et leur signification, il y a possibilité de penser ça et de l'organiser. Mais c'est aussi une volonté politique qui met de l'ordre à l'intérieur de tout ça.
Et... Bon, là encore, on a l'impression que la politique vraiment s'est brûlée, à plusieurs reprises d'ailleurs,
ah oui,
dans cette histoire d'étudiants et d'université, parce qu'enfin, on a connu des événements récents qui ont prouvé que c'est difficile à gérer.
Ça a toujours été un enjeu avec de la manipulation, des groupes de pression, etc. Mais vous savez, une évolution, je me rappelle il y a 40 ans, au tout début de l'Université du Québec, bon, là où j'ai milité, Québec à Montréal, et il y avait à peu près 17 groupes politiques, PCQML, Maoïsme de telle obédience, etc. Les sigles seulement, on ne pouvait plus les retenir, ils étaient 17 et chaque sous-groupe avait sa présence. Bon, c'était une grande période de militantisme politique. Et au fur et à mesure que ça s'est développé, que le savoir a eu ses exigences, que le niveau s'est amélioré, que les livres de propédeutique ont été assez puissants pour augmenter le niveau, et qu'en 30 ans, il y a eu un corps professoral on pouvait rentrer à l'université à 25, 26, 27, 28 ans, et actuellement, plus personne ne devient prof d'université avant 40 ans, 38, 40 ans. Et il y a eu, si vous voulez, une maturation, un grand bond en avant en une génération. Et puis maintenant, j'ai l'impression, d'ailleurs je le déplore, mais enfin, j'ai l'impression que le militantisme est devenu autre. C'est-à-dire c'est une autre période, l'université reprend sa place. L'université n'est pas la cité. Elle fait partie de la cité, mais elle n'est pas la cité. Ce n'est pas dans l'université que l'on doit retrouver les affrontements qui sont de l'ordre des chambres de députés. Ce n'est pas dans l'université que les groupes règlent leurs comptes à travers le trottoir, la route, les dénonciations, etc. Ce n'est pas... Oui, donc il faut une pensée très claire. Et on est à l'université aussi pour s'asseoir, apprendre à être, apprendre à devenir, apprendre le savoir-faire. Donc c'est tout ça aussi. Donc, je n'ai pas peur de dire qu'il y a une priorité au cadre académique. On va réfléchir comment. On voit beaucoup d'articles là. Il y a deux ou trois articles qui sont sortis récemment là-dessus. Comment ça va évoluer?
D'accord. Mais Georges-Anglade, restons encore un peu dans le domaine de l'éducation. Ces dernières années, on a vu qu'il s'est construit beaucoup d'écoles. Mais s'est construit beaucoup d'écoles, il y a eu beaucoup de murs érigés. L'école normale, par exemple, qui s'occupe de la formation de ceux qui vont devenir les maîtres. L'école normale où vous avez fait vos premières armes, l'école normale est restée presque pareille.
Oui, c'est la catastrophe.
Comment faire pour mettre des millions dans le secteur de l'éducation et ne pas penser à la formation des maîtres?
C'est la formation des maîtres, si on prend encore le modèle de l'école normale ou quelque chose d'approchant. Bon, la formation des maîtres est essentielle. C'est pourquoi je dis, le point de départ, c'est souvent... carrément commencer par l'université, capable de produire ses maîtres, capable de produire un niveau de compétence. Bon, il y a des techniques d'incitation qui permettent automatiquement de monter la qualité. Il est peut-être possible, je prends un exemple comme ça se faisait, que dans la compétition, un salaire dès le départ à l'étudiant qui rentre en formation de maître puisse être un incitatif suffisant pour sélectionner les meilleurs. Imaginez tout simplement que la simple réussite pour les 3 ou 4 ans de la normale ou bien de l'école qui forme les maîtres, soit y ait un salaire à la clé et ceci change. Je me rappelle très bien qu'à l'école, à l'époque où je posais, en 1962, où je faisais les examens d'entrée à l'école normale où il y avait 400-500 personnes à s'y présenter, mais qu'il y avait 20 bourses uniquement, et bien les gens compétitionnaient pour avoir les 20 bourses. Et on prenait ceux qui avaient les 20 bourses. Alors, les 20 à rentrer étaient donc une sursélection. Et ainsi, pendant 20 ans, la normale a sursélectionné 400 personnes, de 47 à 67, à 66 à peu près. Et puis, quand ils ont enlevé la bourse et tout, bon, ça a changé de nature. Mais les 400 qui ont été formés, calibrés, organisés à partir de cet incitatif qui était la bourse, il faut que je dise le montant, $20 par mois, ce qui était énorme. 100 gourdes. Ah oui, c'était quelque chose, parce qu'on faisait cours à 3 gourdes, 4 gourdes dans les écoles. Hein, et
L'heure.
J'étais extrêmement bien payé, parce qu'un jeune petit professeur, une espèce de petit coq, et qui s'agitait beaucoup, moi j'étais payé à 6 gourdes et demi l'heure, ce qui créait des jalousies. Hein. Et 7 gourdes et demi. Donc, et pas n'importe quelle matière, la géographie était payée moins cher. J'avais 5 gourdes pour la géographie et 7 gourdes et demi pour le français, je crois. Donc, replaçons-nous, ça ne fait pas tellement longtemps. Bon, il y a d'autres formes d'incitatives. Donc, au bout de 45 ans dans cette machine qu'est l'université, et je sais qu'il y a des moyens de gérer ça, des moyens de voir ça, mais en respect de ce qu'est la dynamique locale aussi. Bon, maintenant, les priorités, c'est ça ce qu'on essaye de définir à l'intérieur des missions sectorielles, des missions structurelles dont on parle depuis tout le début. C'est ce qui va nous arriver sur l'autre hebdo, là, le 36e de la semaine prochaine, le mardi 18 mars. C'est-à-dire quand on va se mettre à parler des issues. C'est-à-dire quelles sont pour chacune des missions de l'État, sectorielles ou structurelles, quelle est la chose essentielle que la personne est prête à entendre. Est-ce qu'on peut définir la série des 10 points, des 10 chantiers, des 10 expectatives, donc des 10 issues, sous lesquelles, à partir desquelles, on va entendre tout le monde s'exprimer. Et nous aurons atteint, avec cet hebdo de la semaine prochaine, si vous voulez, le projet même de l'année 2007-2008 dans les hebdos, d'arriver à pouvoir définir ces 10 mots qui permettent maintenant un énorme débat de commencer. Bon, qui commence ou qui commence pas, tôt ou tard, il éclatera. C'est-à-dire, ces mots sont essentiels, les gens ont besoin d'entendre la position de quelqu'un là-dessus, et je suppose qu'il se trouvera des gens pour poser des questions aux autres en disant, bon, sur tel mot, quelle est la position que vous développez? Ce sont ça les expectatives et les chantiers.
Dans l'éducation, vous proposez directement une discrimination positive, enfin, pour les petites filles.
Ah oui, pour les petites filles. Ça, absolument. Quand on regarde ce que sont nos moyens, quand on regarde les moyens qui sont très faibles, quand on regarde ce qu'est la dynamique de la population haïtienne, la pauvreté qui se reproduit par les femmes et par les petites filles, ce qu'on appelle féminisation et juvénilisation de la pauvreté haïtienne. Les 50% de la population haïtienne dans la misère misérable, c'est les petites filles et les femmes. Et les petites filles restant dans la misère, c'est le cercle vicieux de la misère, vont avoir 7 enfants par femme, jusqu'à présent, qui est notre statistique en cette année, 7 enfants par femme, si elles vont à l'école, s'il y a du travail pour la mère, s'il y a des issues, des expectatives, là, automatiquement, le nombre d'enfants par femme tombe à 3. Il est déjà rendu à 3. Et au niveau de Port-au-Prince, 7 à 3, c'est énorme. C'est-à-dire, on va enfin comprendre que le niveau des filles va augmenter, qu'elles vont choisir d'élever des enfants en moins grand nombre, qu'elles vont atteindre à des niveaux de scolarisation plus grands. Et c'est par les petites filles actuellement que nous pouvons changer la face de ce qu'est cette nouvelle Haïti qui est en train de monter. Et elle le commande d'ailleurs. La réalité, à la fois pour l'économique, le social, le moral, tout ce que vous voulez, il y a une urgence de mettre l'accent sur les petites filles. Ce qui d'ailleurs a déjà été fait pour les 5 millions à l'extérieur. C'est-à-dire en une génération, quand vous voyez la deuxième génération de nos jeunes filles à l'extérieur, on se rend bien compte.
Bon, qui sont formées,
ouais,
qui ont un métier, qui sont occupées,
ouais,
et qui peuvent faire autre chose que faire des enfants.
En une génération, il a suffi d'une seule génération de 30 ans pour voir une différence énorme avec les mères. On a reproduit, et ce qu'on a actuellement, c'est-à-dire on a 500 000 de petites filles à l'école aux États-Unis, et on voit tout à fait autre chose émerger, c'est-à-dire un autre rapport au réel. Ce à quoi j'ai assisté aussi au tout début de mes hebdos, quand je m'émerveillais de regarder les filles dans les concours de beauté, dans les discussions qu'il y avait, qui étaient des concours plus intellectuels que de beauté d'ailleurs, et qu'on sentait bien une nouvelle génération émerger de cette révolution. Ça a été pour moi l'un des éléments pour comprendre cette révolution de classe moyenne qui était en cours, c'est que quand j'ai vu une nouvelle génération de filles sur le stage, sur le podium, avec des préoccupations totalement différentes, avec une autre manière d'éducation, pouvoir challenger les garçons, non pas en position de domination, et j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui était propulsé, non pas d'Haïti, mais de l'extérieur, mais qui prenait cours en Haïti, à l'intérieur de toutes les cités, etc. C'est comme pour le carnaval, pour tout le reste. Donc à ce moment-là, il n'y avait qu'une théorisation de l'émergence d'un nouvel empire du milieu, d'une nouvelle montée des classes moyennes, pour expliquer ce phénomène. C'est-à-dire l'ancien Haïti pouvait encore faire la liaison entre une petite élite et une grande masse, c'est-à-dire, bon, la jonction entre deux extrêmes. Maintenant, c'est par le milieu que ça passe. Et même en littérature, vous allez voir ça, c'est-à-dire cette jonction des deux extrêmes qu'on avait l'habitude de voir. Oh, Jacques Roumain. Et maintenant, passez par le milieu, et vous avez absolument tout à fait autre chose, comme discours, le discours de l'audience, par exemple. C'est tout à fait une problématique totalement différente, s'accrochant à un pays qui a changé.
aménager, éduquer, soigner, bon, les missions sectorielles de l'État, mais en même temps aussi, il y a le quotidien, Georges Anglade. Est-ce que ce n'est pas plus facile de s'occuper du quotidien que d'aller chercher de nouvelles pistes, d'aller chercher de nouvelles façons de faire, d'aller chercher de nouveaux défis? Parce que le quotidien, c'est déjà si difficile pour ceux qui gouvernent.
Ah, alors gouverner, c'est une responsabilité énorme en complexité. Et nous ne sommes plus dans la simplicité. Les gens essayent de se maintenir dans la simplicité des 27 000 km², dans l'enclos, comme j'ai envie de dire souvent, dans l'enclos des 27 000 km², parce que c'est plus facile et moins épeurant pour eux. Et je comprends. Mais dès qu'ils s'ouvrent à la complexité, dès qu'ils s'ouvrent aux influences extérieures, dès que rentre et sort, si vous voulez, toute cette dynamique-là, eh bien, à quoi assistons-nous ? On assiste à des explosions. Prenons simplement un petit carnaval qui ne serait que nous, entre nous. Il y aurait du rara, quelques tambours, trois reines, etc. Quand on avait 1 million, 2,5 personnes dans les rues, c'est-à-dire 50% de la population de Port-au-Prince dans les rues chaque soir, qu'on avait cette marée humaine qui avançait, ces musiques qui n'étaient certainement pas produites par l'économie haïtienne ou la culture de l'enclos. C'était vraiment tous les 15 millions qui étaient en jeu depuis 30 ans pour donner cette musique, pour donner cette lecture, pour sortir tous ces gens, etc., etc. Et à ce moment-là, on sent bien qu'on est en train de gérer la complexité. Et c'est pour n'avoir pas géré la complexité que ministère avait changé et au profit d'un autre. Enfin, il y a eu un problème, mais c'est à l'intérieur du ministère de la Culture que ça a eu lieu, pas dans un autre ministère. Il n'y a qu'un seul ministre à avoir sauté, c'était celui-là. Mais c'est à l'intérieur aussi de cette complexité qui augmente. Comment gérer cette complexité ? Ce n'est plus la question du quotidien, il faut avoir une vision d'ensemble. D'où je reviens, on ne peut pas s'en sortir et on ne peut pas savoir, parce qu'il y a un problème de culture, de connaissance de cette réalité nationale. Bon, je dirais que le niveau culturel de la connaissance de la réalité haïtienne est assez faible. C'est-à-dire les gens vivent en Haïti, ils sont là, ils sont à l'extérieur, mais ce n'est pas leur métier de saisir. Il nous faut des outils qui disent « voilà le nouvel Haïti ». Et de plus en plus, c'est pourquoi je parle de propédeutique, il faut qu'on arrive tous à un niveau de culture moyen partagé entre nous. Ce sont les paradigmes de base. Quand les TDR sont essentiels, là. Les contrats de travail sont essentiels. Il faut qu'un ministre qui prend un poste... Je prends le ministre de l'alphabétisation. Le ministère de l'alphabétisation, le sous-secrétariat, dirigé par un jeune homme certainement compétent, brave, enfin, très dynamique, et qui nous arrive donc de la structure du Nord et avec Renaud Bernadet autrefois, etc. C'était le ministre conseiller de Renaud Bernadet. Eh bien, le secrétaire d'État très compétent. Mais si son TDR, ses termes de référence, son contrat de travail, avait bien dit « il y a une urgence et une priorité dans l'alphabétisation ». Si on alphabétise d'abord les mères qui ont des petites filles, le levier de déblocage, l'impact de l'alphabétisation, si on allait sur les mères, et les petites filles, et la relation entre mère et petite fille, etc., si on avait fait ce choix, l'impact serait 50 fois supérieur à ce qu'on peut avoir si on y va de manière latérale. C'est si vrai que le discours inaugural, puisque j'ai parlé de Fouron tout à l'heure, prononcé par Fouron à l'échelle mondiale.
Qui est Fouron ? Ça fait
c'est
le
médecin.
Fois.
La deuxième fois que je parle d'un médecin haïtien de 75 ans qui est une sommité mondiale. Mais cette fois, ça, c'est cardiologie et pédiatrique, et qui est l'homme qui rédige, si vous voulez, les manuels de pédiatrie cardiologique, qui est de cette génération de Port-au-Prince, enfin de...
Il exerce où ?
Jean-Claude, à Montréal, c'est le grand patron de cette cardiologie fœtale, et c'est lui qui est actuellement couvert de gloire et de poussière, et qui prononce les discours dans les grandes assemblées internationales de cardiologues, c'est lui qui est le keynote, c'est lui à qui on confie ses grands textes. Et ben, le dernier grand texte qu'il a pondu et qu'il avait à pondre, c'était imposé. C'est pas lui qui avait choisi. On lui avait dit sur les mères et les enfants. C'est-à-dire qu'elle était là où le levier était le plus fort. C'est-à-dire les gens réfléchissent aux chichouzes. Comment? Pour les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, l'Espagne, etc., où trouver là où il faut faire l'investissement qui nous permette de nous en sortir encore plus rapidement qu'eux pour régler ça. Ce qui est notre cas ici, c'est-à-dire que où faire l'investissement pour nous permettre de nous en sortir plus facilement, c'est à partir de ces jeunes filles et de ces femmes. Alors ce que je dis que Ce à quoi nous aboutissons, rien qu'à l'observation d'Haïti, attention, nous ne sommes pas seuls dans le monde. Tout le monde aboutit à cette même observation. Si vous allez à côté en République dominicaine, vous avez la même préoccupation et vous avez des investissements à ce moment-là sur la femme et les enfants. Et vous avez donc cette préoccupation. Maintenant, il faut qu'on passe à l'action. D'autant que nous n'avons pas beaucoup d'argent. Si on avait beaucoup d'argent, on pourrait se permettre de continuer comme on le fait actuellement. Mais comme on est un état faible sans beaucoup d'argent, eh bien, encore une fois, il nous faut nous occuper de ça. Alors, on ne peut plus gérer même l'alphabétisation. Comme dans l'exemple que je viens de prendre, il faudrait des priorités. Il aurait fallu des contrats. Il aurait fallu une définition de ceci. Mais ce n'est pas au ministre, au secrétaire d'État de définir ça. Il faut qu'il y ait quelque part une instance d'embauche qui définisse ça pour lui et lui dise « voilà ta priorité et voilà là où l'efficacité va être le plus grand ». Au lieu de l'obliger à définir lui-même et à imaginer ses affaires et à passer à la télévision en essayant de nous dire qu'est-ce qu'il croit être important, le nombre d'emplois, au salaire minimum, le ZIU, le ZA, etc., etc. Alors que moi j'ai envie de l'entendre sur le nombre de femmes et de petites filles qui, dans son mécanisme d'alphabétisation, va me donner un coefficient de multiplication nettement supérieur dans la sortie de mes problèmes. Donc, vous sentez bien qu'il y a une direction, une pensée stratégique qui s'impose. Il faut que nous aboutissions dans chacun de ces secteurs, dans chacune des structures, dans chacun des points, à des issues très claires, c'est-à-dire, et c'est qui permet, c'est la proposition de la semaine prochaine, je dis à la proposition quasi finale, qui permet de dire, bon, ben, on va commencer nos débats maintenant, à partir de ce point, à l'hebdo 36, qui nous permet de dire, tout ce qui a été fait, tout ce cheminement aboutit à ça, on est dans une position comparable. Alors, globalement à ce qui se passe ailleurs, et que l'on puisse commencer à discuter entre nous de ce qui implique, si vous voulez, l'engagement de tout le monde. Et puis que les gens arrêtent aussi, ils arrêtent d'être spectateurs. On rencontre, ça fait 9 mois que je rencontre des gens en province, ou à la capitale, dans mes sorties, sur les terrains, partout. Toutes les personnes ont l'air d'avoir pris un ticket de tribune. Et puis le match se déroule sur le terrain, et puis ils attendent. Moi j'ai même l'impression qu'ils attendent que je me casse la gueule. Alors ils attendent, jusqu'à présent ça va, mais enfin quand va-t-il se casser la gueule, quand va-t-on lui casser un pied, et puis ils observent, ils sont là, ils ne s'engagent pas. Ben, il faut qu'ils sortent
de la
tribune.
C'est la difficulté ici de faire des choix, et des fois de décider de faire des choix. Bon, Georges Anglade, ça a été un plaisir de vous recevoir à Magique 9 pour la discussion autour de ce 35e hebdo qu'on retrouve tous les mardis dans le Nouvelliste. Je rappelle aux auditeurs qu'ils ont le plaisir de vous écouter ce jeudi, enfin qu'ils ont eu le plaisir de vous écouter ce jeudi, que l'émission sera reprise cet après-midi entre 5 et 6 heures et sera encore reprise dimanche à 5 heures sur Magique 9. C'est un plaisir pour nous de vous avoir, Georges Anglade. À bientôt.
Merci beaucoup. Merci à tout le monde.